VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toute le monde aujourd'hui, édition du mercredi 2 mai 2018 en direct de Washington. Idrissa Sédoudia
et Jean-Roger Billon.
Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, le comité laïque de coordination annonce de nouvelles manifestations pour réclamer des élections transparentes en décembre prochain.
En République centrafricaine, la capitale Bangui plongée dans un nouveau cycle de violence après l'attaque meurtrière de mardi matin contre l'église catholique de Fatima.
Au Nigeria, des dizaines de personnes ont été tuées hier au cours d'un double attentat dans le nord-est.
Rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Iran, accusés d'avoir facilité la livraison d'armes au front Polisario.
Le président américain Donald Trump pourrait se rendre à Jérusalem pour l'inauguration ce mois-ci de la nouvelle ambassade américaine.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, les laïcs catholiques ont annoncé de nouvelles manifestations dans les tout prochains jours. Après 2 mois de trêve, le comité laïque de coordination, initiateur des marches organisées depuis fin décembre 2017 contre le régime du président Joseph Kabila, va organiser d'autres manifestations d'envergure pour obtenir la tenue des élections de décembre prochain dans la transparence et dans un climat apaisé. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
Réunis pendant 2 jours à Kinshasa pour évaluer la situation de la République démocratique du Congo à 7 mois des élections, le comité laïque de coordination déplore l'entêtement de la Commission électorale nationale indépendante concernant l'usage de la machine à voter, un outil, je cite, décrié sur le plan national et déconseillé par tous les pays amis, y compris celui de la provenance de cette technologie, fin de citation. Les laïcs catholiques n'ont également qu'aucune mesure de décrispation politique n'a été véritablement d'application. Aucun exilé politique n'a pu retourner au pays. Le contentieux des dédoublements des partis politiques n'a pas été vidé. Les espaces démocratiques et médiatiques toujours pas libéralisés. Les poursuites judiciaires contre les opposants n'ont pas été abandonnées, note entre autres leur communiqué, qui s'insurge par ailleurs contre la partialité de la CENI et l'instrumentalisation par le régime de Joseph Kabila de la Cour constitutionnelle, organe qui doit gérer les contentieux des candidats et du résultat de vote. Ainsi donc, le CLC décide de lever la trêve décrétée fin février et annonce le démarrage des préparatifs des actions pacifiques d'envergure de protestation et de revendication sur l'ensemble du territoire de la RDC. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Signalons toujours en République démocratique du Congo que la procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, est arrivée hier à Kinshasa alors que des demandes d'enquête sur la RDC ont été adressées à la Cour. En janvier, le Parlement européen a demandé instamment à la CPI et à l'ONU d'enquêter sur des allégations de crimes contre l'humanité dans le Kasaï, dans le centre du pays. Le 1er mars, le mouvement citoyen congolais Debout avait aussi demandé à la CPI d'enquêter sur la répression des manifestations pacifiques.
En République centrafricaine, au moins 20 personnes, parmi lesquelles un policier, un prêtre, l'abbé Albert Tugumale Baba et un enfant ont été tués hier à Bangui lors d'affrontements entre un groupe armé et les forces de sécurité. L'arrestation d'un membre du groupe armé du groupe dénommé Force a provoqué l'attaque de l'église de Fatima dans le 6e arrondissement de Bangui au cours d'un office religieux, a indiqué l'ONU dans un communiqué.
En réaction à la mort du prêtre, des groupes en colère se sont rassemblés en différents points de la capitale. 2 personnes soupçonnées d'être des musulmans ont été lynchées à Lakunga, selon une source médicale, et une mosquée a été incendiée par des manifestants dans ce même quartier où la MINUSCA a affirmé avoir dépêché une patrouille. Nous reviendrons sur ce regain de violence à Bangui en seconde partie de cette édition.
Au Gabon, le gouvernement du Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé a démissionné hier. Cette démission fait suite à la dissolution lundi de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle qui avait aussi demandé le départ du gouvernement. Selon la Cour, le gouvernement a échoué dans l'organisation des législatives au plus tard le 30 avril après 2 reports de ses élections depuis décembre 2016.
Au Nigeria, des dizaines de personnes ont été tuées hier au cours d'un double attentat dans le nord-est, cette attaque est intervenue alors que, lors de sa visite lundi à la Maison-Blanche, le président Muhammadu Buhari a remercié Washington pour son aide dans le combat contre Boko Haram. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Un kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée de Moubi dans l'état d'Adamawa, puis un second dans un marché à proximité au moment où les fidèles musulmans s'enfuyaient de la mosquée. Le porte-parole de la police locale, Othman Aboubakar, a confirmé la mort de 24 personnes, mais des bilans plus lourds ont été donnés par des témoins. Abou Saleh, secouriste, dit avoir aidé à transporter des dizaines de morts et des blessés vers l'hôpital. Sani Kakale, un autre secouriste, avance le chiffre de 42 morts et de 68 blessés. Une source hospitalière de Moubi parle de 37 corps à la morgue. Fin novembre, au moins 50 personnes ont été tuées dans un attentat similaire dans cette même ville de Moubi. Lundi, à la Maison-Blanche, la lutte contre le terrorisme a été au cœur de la rencontre entre le président nigérian Muhammadu Buhari et son homologue américain Donald Trump. Cette année, Washington a vendu des armements au Nigeria pour 496 millions de dollars.
Rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Iran. Rabat accuse Téhéran d'avoir facilité la livraison d'armes au Front Polisario par l'intermédiaire de son allié, le Hezbollah libanais, Abdourahmane Dia.
Lors d'une conférence de presse à Rabat hier, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a précisé que cette décision de rompre les liens avec Téhéran n'avait rien à voir avec les tensions actuelles entre l'Iran et l'Arabie saoudite, avec qui le Maroc est très lié sur les plans religieux et diplomatiques. Selon M. Bourita, une première livraison d'armes a été récemment fournie au Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui soutenu par l'Algérie via un élément à l'ambassade iranienne à Alger. Le Maroc dispose de preuves irréfutables, de noms identifiés et de faits précis qui corroborent cette connivence entre le Polisario et le Hezbollah contre les extrêmes droits et le chef de la diplomatie marocaine. Il a affirmé que l'ambassadeur maroc a quitté l'Iran hier et qu'il va demander au chef de l'ambassade d'Iran de quitter le pays. Le Maroc avait déroulé l'Iran du 9 pour contre l'activisme religieux du royaume. La situation avait été 14.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a déclaré hier qu'il pourrait se rendre à Jérusalem pour l'inauguration de la nouvelle ambassade américaine. Le point avec Irénée Herman-Hungbo.
Le président Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait être présent lors de l'assemblée de transfert de l'ambassade américaine Tel Aviv à Jérusalem, prévue le 14 de ce mois. Les nouveaux locaux seront proposés en attendant de trouver un site définitif. Au premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu sur CNews, avait dit qu'il souhaiterait la présence du président Trump à cette inauguration. Le cadre de l'exemple a été au début de l'année de Virechi en reconnaissant la ville de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Cela avait entraîné des manifestations de coups des Palestiniens et dans beaucoup de pays arabes du monde. Le jour de la mise en place de cette nouvelle représentation américaine d'Israël, le président Trump devra aussi prononcer sur l'accord qui a été conclu à après négociation en 2015.
Concernant justement l'avenir de cet accord, les alliés européens des États-Unis ont tiré des conclusions différentes sur les preuves présentées lundi par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et a accusé l'Iran d'avoir menti auparavant sur son programme nucléaire, mais sans l'accuser directement de violer l'accord de 2015. Des diplomates européens soutiennent que cette présentation a été coordonnée avec Washington. Elle visait selon eux à contrer les fortes pressions des Européens sur le président Trump pour qu'il ne se retire pas de cet accord entre Téhéran et les six grandes puissances. Hier, le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson s'est joint à ses homologues européens pour défendre l'accord et dit que M. Netanyahou n'a fait que montrer en réalité la nécessité de préserver ce document et les restrictions ainsi apportées aux ambitions nucléaires iraniennes.
La Corée du Sud a confirmé aujourd'hui que plusieurs avions de chasse furtifs américains F-2 Raptor avaient été déployés au sud pour des manœuvres aériennes conjointes en détente avec le Nord. Les F-22 Raptor avaient déjà volé la Corée du Sud en décembre lors des plus importants exercices aériens américains ou sud-coréens, quelques jours après tir d'un missile balistique intercontinental susceptible de importé du territoire des États-Unis. La Corée du Nord est toujours vivement au déploiement d'avions furtifs comme les F-22, les F-35 ou les F-35 qui peuvent, selon elle, être utilisés pour des frappes chirurgicales.
Plus de 2000 partisans de l'ex-président brésilien Lula ont manifesté à Curitiba, dans le sud du pays, où l'ancien chef d'État purge une peine de 12 ans de prison. Rouge, la couleur du Parti des travailleurs, les sympathisants de l'icône de la gauche est venu soutenir celui qui reste le favori des sondages pour la présidentielle d'octobre, malgré son emprisonnement. Luis Inácio Lula, âgé de 72 ans, peut plus le 7 avril, peine de 12 ans, et blanchir l'argent. Fin de ce journal, tu veux la voix de l'Amérique.
La Minute Éco, Eric Kiza.
Les cours du pétrole ont effacé hier mardi leur gain la veille. C'est à la suite des affirmations des ministres israéliens Benjamin Netanyahu sur l'existence d'un secret iranien pour se doter de la bombe atomique. Les cours ont en parallèle été fortement touchés par un renforcement de l'arrière lié à la hausse des États-Unis et les perspectives de hausse de taux d'intérêt de la Banque centrale américaine, la Fed. Le dollar est monté ce mardi en séance son plus haut niveau depuis le 9 janvier. Une appréciation du dollar en acquisition de matières premières pour les investisseurs unis d'autres monnaies. Au lieu, le premier budget solaire sur le Parlement s'élève à plus de 502 millions de dollars pour l'année fiscale 2018-2019. Après le ministre des Finances, il répond aux orientations du président Joe Joya pour renforcer les politiques en faveur des pauvres, des secteurs de l'énergie, de l'environnement, des infrastructures, des services de base, de la santé, des services sociaux et de l'éducation reçoivent les plus importantes dotations budgétaires. Obéir au code de foncier et douanier en vigueur risque de causer du tort à une large majorité de la population rurale et consacre le titre foncier comme son titre de propriété. L'Association nationale des communes du Bénin a débuté une campagne de sensibilisation sur la question de défense coutumière des terres et des formulaires élaborés pour sa délivrance.
À présent, les sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonjour.
Bonjour Drissa, bonjour à tous.
Le Real Madrid défendra son titre en Ligue des Champions.
Oui, le Real Madrid qui va disputer une troisième finale de Ligue des Champions de suite. Et c'est presque un miracle, puisqu'après sa victoire chanceuse à Munich 2-1 lors du match aller, le club moringuin a ouvert au stade Santiago Bernabéu. Score final 2-2 pour cette demi-finale retour. Benzema a doublé grâce notamment à une bourde du gardien du Bayern Munich en début de seconde mi-temps.
Et la Roma attend l'impossible soir.
Et trois semaines après un incroyable exploit contre Barcelone, l'Estrom doit remonter 3 buts retard contre Liverpool ce mercredi pour atteindre la finale de Ligue des Champions et l'entrée aux Eusebio Di Francesco. Les Romains ont dit de faire un nouveau miracle.
Mancini tout proche du poste de sélectionneur.
Le du Zéthersbourg, Roberto Mancini, s'est dit prêt à devenir sélectionneur de l'Italie, annoncé à l'administrateur de la Fédération italienne, Roberto Fabri. Le GV futur sélectionneur a fixé à 50 points. Après le score Azul, on n'a plus de sélectionneur depuis le nombre et le départ de Gianpiero Vampa après l'échec historique face à la Suède en match de barrage pour accéder au Mondial 2018.
Salah, roi d'Angleterre.
Et l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, auteur de 43 saisons, a été joué l'année par l'association des journalistes couvrant le football anglais. Et puis, il a devancé du courte que le champion d'Angleterre de Manchester. Kevin De Bruyne, le mois dernier, Salah avait déjà reçu le trophée joueur d'année de la part du syndicat anglais des joueurs professionnels. Allez, c'est avec vous de la NBA, le champ basket nord-américain.
Match numéro 1 du second tour en conférence Est entre Cleveland et Toronto. Les Cavaliers battent les Raptors 113-112. Conférence Ouest, Golden State bat de nouveau la Nouvelle-Orléans 121-116 et mène leur série de victoires à 0.
Le monde aujourd'hui vers Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à notre dossier du jour. En Centrafrique, il y a eu au moins 20 morts et une cinquantaine de blessés suite à l'attaque de mardi matin contre l'église catholique de Fatima par une bande armée du PA5. Idrissa a recueilli la réaction de Martar Aliri, alias Source, chef de groupe armé du PA5 Bangui, qui nie toute question de violence.
Monsieur le réaliste, moi je suis rien, je suis à la police, en grande tête, j'écoute les balles, ça sonne vers le quartier. J'ai demandé le policier et les gendarmes, ils ont quelqu'un avec son véhicule, sur le vêtu. Ils ont blessé le monsieur. Dès que j'ai appris le véhicule, les parents sont derrière et après un coma, il n'y a pas même des armes pour aller checker ni grec, ni ex-militaire. Ça veut dire qu'il n'est pas derrière. Et maintenant, on est sur le terrain. On ne sait pas. On parle le Minusca, on combatti le Faka et le gendarme. Le Minusca est devant et le Faka, le Balaka, ils sont derrière. Ils tirent sur nous.
Pour force de se mêler à l'acte de l'église Fatima.
Je ne suis rien sur l'église de Fatima. Moi, je ne suis pas contre l'église. Ça fait 5 ans, à côté de l'église. Pourquoi je n'ai pas allé à l'église? Il y a des éléments. Il y a les cigarettes. Ils pensent que c'est moi. Et pour que les gens ne sont pas sur lui, les mêmes ils se trouvent à l'écoutant. Le fat de l'église, moi, j'ai un terrain sur moi. Pour aller à cette église, il va se planter. Il est ici, il fait son travail.
La MINUSCA dit que vous êtes des bandits qui extorquaient de l'argent aux commerçants du commerce.
Non, mais moi, je n'ai plus le temps de la guerre. Il parle des renseignements. C'est quelqu'un qui travaille dans les États-Unis. Avant de dire, il faut descendre sur le terrain. Il ne fait pas mis, il pas pour que j'ai. Et j'ai trouvé le compte sur la MINUSCA. Je vais planter, je vais planter le gouvernement. Une voix, allez, je vais prendre une voix. Je vais tracer, ou une voix.
Il demande pas votre
Martin Ali, alias chef de l'armée du P5 à Bangui.
Le Tchad tourne une histoire en entrant la 4ème République. Le Parlement a débattu sur instaurant un régime présidentiel intégral qui en fait pouvoir du président Éric Dabitno. L'opposition mise en coup force une 4ème République. Pourquoi faire? Quelles sont les mesures instaurées sous cette nouvelle institution? Et quel est l'avenir du pays présidentiel intégral? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en universel avec Rasta Jérôme.
Au Gabon ou au Congo. Parlons maintenant du Burkina Faso. Il est difficile pour les populations de passer une journée sans délestage. Ces interruptions momentanées d'électricité coïncident avec une période de forte chaleur où la température capitale a les 42 degrés de Ouagadougou. De Lamine Traoré, correspondant de VOA.
Chaque jour connaît son lot de délestage. Plusieurs quartiers sont souvent des qui font ces activités. Nous sommes dans cette lieu de Nigerie, vitrerie et aluminium. Quand il n'y a pas d'électricité, tout ça.
On a des machines, on a des outils qu'on utilise, surtout avec de l'électricité. On a des communes, quand il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas travailler, on nous embête.
Pascal est ma directeur de transport.
Il y a certains temps, nous rencontrons une difficulté, notamment un déséquilibre entre l'offre et les besoins de clientèle qu'on appelle la consommation. De telle sorte que l'offre disponible ne peut pas satisfaire à la demande de la clientèle et nous sommes obligés d'opérer ce qu'on appelle le délestage.
La Sonabel dit travailler à minimiser des équilibres, mais il y a des sacrifices à faire, surtout au niveau de la population.
Si on est assis au salon, on veille à éteindre les lampes dans les chambres. Nous avons publié un programme de stage, un programme qui permet aux uns ou aux autres de savoir à tel moment de la journée, de la nuit, je suis susceptible d'être interrompu pour pouvoir justement rétablir l'équilibre.
En attendant l'interconnexion avec le Ghana voisin, pour remédier à ces difficultés en fourniture d'électricité, ces perturbations énergétiques vont se poursuivre, selon les responsables de la Sonabel. Le premier ministre Paul Kabatieba, lui devant la représentation nationale, a annoncé qu'en 2019, c'est zéro délestage. Bon revoir. Lamine Traoré, Ouagou, VOA Afrique.
Vous bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Congo-Brazzaville, maintenant, les opposants, surtout de simples citoyens, publient des informations plus ou moins fausses sur la vérité qu'ils traitent avec beaucoup de liberté. De corrompus, ces informations distillées sur les réseaux sociaux sont souvent prises avec beaucoup de... C'est ce que nous explique notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngusu.
Il ne se passe un jour sans qu'un Congolais ne découvre un gros bâche sur la vie d'un dignitaire du pouvoir ou de l'opposition et leur famille. Affaires de corruption, offshore ou les disputes dans les réunions officielles, les scènes de ménage dans les cours des autorités, tout est rapporté. Aucun dirigeant n'est pris de ce qui devait de plus en plus être plus sérieux. À l'UPADES, par exemple, la principale formation de l'opposition, l'être pour réclamer le lutte national, sont passés par les réseaux sociaux pour le Congo, le
Non, il faut laisser les réseaux sociaux s'exprimer. C'est ce que se dit dans les réseaux sociaux. C'est faux. C'est réalité. Dites-moi, quel est l'espoir aujourd'hui que le peuple est situé, même des oppositions, même marcher en tout ça, et ces mécanismes de communication pour les gens marrent.
Pour une aide des réseaux sociaux, mais aussi coordinatrice d'une plateforme d'Internet, il y a trop d'abus sur Internet.
Oui, c'est juste une volonté de nuire. Il y a certaines informations, moi je me dis, il y a certaines personnes ou les gestionnaires de ces pages-là, des fois ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas d'informations, ils se disent, bon, on a créé un buzz. Et ils se mettent à fouiller des choses, à transformer des vérités. Des choses fausses pour attirer plus de gens parce que de nos jours, les gens sont plus intéressés à des futilités qu'à une vraie information.
Idriss Bosoto est un enseignant de nouvelles technologies à l'université Marie Ngouabi. Il a retenu une publication émouvante sur les réseaux sociaux.
On va parler également de ce fichier audio qui a circulé via le réseau social WhatsApp relatif à l'intervention du soi-disant sergent maçon, je ne sais quoi, qui a, on va dire, entraîné une véritable psychose dans Brazzaville pendant près d'un mois. Tous les Congolais étaient, on va dire, affecté directement et indirectement. Information qui a eu un impact social, mais qui a eu également un impact économique et surtout sécuritaire.
Mais qu'est-ce qui peut bien justifier un tel accaparement presque agressif des Congolais sur les réseaux sociaux? Alphonse Ndongo, un journaliste sur les réseaux sociaux, tente une explication.
Lorsque ceux qui sont censés donner la bonne information ne la donnent pas à temps ou gesticulent pour la donner, évidemment, ça laisse libre cours à tout genre de rumeurs, de mauvaises informations et partant de fake news.
Depuis un moment, la plupart des membres du gouvernement se dotent des comptes Facebook ou Twitter pour essayer de répondre à toutes ces attaques. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Après un mois de voyage à pied, en bus ou en train, la caravane de migrants venus d'Amérique centrale est arrivée au port de Tijuana au Mexique, porte d'entrée aux États-Unis. Ils sont des centaines de migrants cherchant à obtenir l'asile. Les responsables de l'immigration en Californie disent qu'il y a un trop-plein de demandeurs, ce qui a amené quelques 150 personnes, dont des femmes et des enfants, à camper sur place et faire le pied de grue à la frontière. Reportage d'Arturo Martinez, repris ici par Raissa Gironda.
Et después, la caravana, de este lado, algunos miembros de la caravana.
Fatigués et émus. Plus de 150 migrants ont terminé leur traversée de l'Amérique centrale à la frontière avec les États-Unis. Beaucoup disent avoir fui la violence et une vie de misère. L'un d'entre eux a fui le Honduras.
Je suis heureux d'avoir cette opportunité, mais j'ai doute de ce qui va advenir.
Les lois américaines permettent à des individus de demander l'asile s'ils peuvent démontrer de manière crédible qu'ils fuient la persécution. Après la longue marche jusqu'à la frontière américaine, c'est la longue attente qui continue. Les responsables de l'immigration assurent que la porte d'entrée est fermée après avoir atteint sa capacité d'accueil de 300 personnes. Nicole Ramos, avocat de l'immigration, reste très sceptique. Ils affirment qu'ils vont prendre soin des gens lorsqu'ils auront les capacités d'accueil. Mais comment est-ce possible que le gouvernement américain, le plus puissant et l'un des plus riches au monde, n'ait pas les capacités d'accueillir 200 réfugiés, des gens vulnérables? Je n'y crois pas. Ne pouvant entrer sur le territoire américain, la plupart des migrants passent la nuit à la Belle Étoile avec leurs sacs et baluchons. Lundi, le président Trump a dit qu'il surveille de près leur caravane. Il a aussi tiré à boulet rouge sur la politique dite « arrêter puis relâcher » qui permet de relâcher les migrants après une détention prolongée. Le président Donald Trump est en désaccord total avec une telle politique.
S'ils touchent à notre propriété, s'ils touchent à notre pays, vous les arrêtez puis vous les relâchez dans la nature, ce n'est pas acceptable. Nous avons besoin de changer la loi.
Les personnes qui demandent l'asile doivent respecter la loi. C'est ce que souhaitent ceux chargés de surveiller quelques 3000 kilomètres de frontières entre les États-Unis et le Mexique, dont George Rivera, un garde-frontière.
Nous comprenons qu'ils ont un rêve à réaliser et qu'ils ont un besoin. Il y a des lois dans ce pays et nous devons les respecter. Nous attendons cela de quiconque vient dans notre pays et nous sommes là pour faire respecter la loi.
Parmi tous ces candidats à l'immigration, près de la moitié sont des mineurs accompagnés par leurs parents. Ils ne pensent pas tous obtenir l'asile. Louis Pavon, venu du Honduras, a préféré rester à Mexico pendant que sa femme et sa fille entament le processus de demande d'asile.
Au Honduras, beaucoup ont déjà été tués. Là-bas, je n'aurais jamais pu revoir ma famille. Au moins ici, de l'autre côté de la frontière, j'ai espoir de pouvoir la revoir un jour.
Réaliser le rêve américain est comme un parcours du combattant, mais l'espoir est encore permis.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme de la bonne musique, notre sujet de cette semaine, la différence de salaire homme-femme, d'où provient-elle? Pourquoi certaines femmes gagnent-elles moins que les hommes? Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 3731. C'est au 001 703 350 3731. Contactez-nous aussi sur notre page Facebook Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous en live, en direct pour participer. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel. Sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Anne Albertson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.